Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand.
Le débrief de Radio VFM et Foot Normand, le 26e épisode et la deuxième partie. Rebonjour si vous êtes toujours avec nous, bonsoir à toutes et à tous si vous nous rejoignez. C'est le débrief donc de Radio VFM et Foot Normand avec Mathieu Billot, justement de Foot Normand. Re-salut Mathieu.
Salut Christophe, salut à tous.
La suite de ce débrief après la partie Stade Malherbe consacrée au capitaine Jesse Demagué qui était notre invité exceptionnel. On va parler du Havre dans un instant avec notre invité Benoît Donquel, journaliste à Paris-Normandie. On va revenir évidemment sur la saison du HAC, saison qui s'est conclu par une défaite sur la pelouse de Guingamp samedi sur le score de 2-1. De tout cela, on en parle évidemment dans un instant.
Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le foot normand.
Et comme pour le Stade Malherbe, le Havre a effectivement clôturé son championnat de Ligue 2 samedi dernier sur une défaite, la quatrième de suite, sur la pelouse de Guingamp, 2-1. Début de Mchangama et de Merghem pour Guingamp contre un but de Roux contre son camp pour des Havrais qui terminent donc la saison à la 8e place avec 50 points pour un bilan définitif de 13 victoires, 11 nuls et 14 défaites. De tout cela, on en parle évidemment avec notre invité, le spécialiste de l'actualité des Ciels et Marines pour Paris-Normandie, Benoît Donquel. Salut Benoît.
Salut Christophe, salut Mathieu, salut à tous.
Bon Benoît, tout simplement, comment est-ce qu'on peut la qualifier, cette saison du HAC?
On va la qualifier de terne. Voilà, de terne. On va pas utiliser des mots trop forts non plus, parce que on se souvient de l'été dernier où l'effectif avait été dessiné autour de pas mal de gamins qui découvraient la Ligue 2. À l'arrivée, il y a eu une petite touche de rêve à la trêve lorsque le Havre n'était qu'à un seul point du top 5. Et puis en seconde partie de saison, tout s'est écroulé. La dynamique a été inverse à celle de clubs comme Caen ou Guingamp. Voilà, le rêve s'est vite dissipé et les Havre ont signé une deuxième partie de saison pour le coup indigne d'un tel club.
Est-ce que du coup il y a des regrets, Benoît, tu y faisais référence, 6e à l'issue de la phase aller, il y a eu une belle victoire au Serre, hein, juste avant Noël, qui laissait éventuellement espérer des choses, est-ce que malgré tout il y a des regrets, est-ce que les supporters peuvent éprouver des regrets au regard de la saison de leur club?
Non, je pense pas, très honnêtement, je pense pas, voilà, même si tout le monde y a cru un petit moment, c'est quand même très vite écroulé. Et puis on a vu que quand les gros du championnat venaient au stade Océane, et bien souvent ils repartaient avec les 3 points. Alors Toulouse est reparti avec un nul. Mais Paris FC est venu gagner, Auxerre est venu gagner, Ajaccio est venu gagner, Sochaux est venu gagner. Donc voilà, à partir de là, il n'y avait pas grand chose à espérer. Dans les très grands rendez-vous, notamment à domicile, les Havrais n'ont jamais été présents, en fait.
Il y a une sorte de plafond de verre, un petit peu, qui s'est installé, quoi. C'est aux portes du top 5, mais pas en capacité d'y rentrer, quoi, grosso modo.
Oui, tout à fait. Et puis on se rend compte que les Havrais ont souffert du même problème que la saison passée, c'est-à-dire qu'à domicile, ils sont loin d'être performants. L'an passé, ils avaient fini 19e au classement domicile. Cette année, ils doivent être peut-être 15e ou 16e, j'ai pas trop regardé, mais avec 8 défaites, ce qui est un record en Ligue 2 pour le Havre. Un triste record. Donc non, à partir de là, c'était pas possible d'espérer quelque chose quand à domicile on est incapable de faire la différence.
Est-ce que sur la phase aller, on peut estimer que le HAC était un peu en sur-régime ou c'est un peu sévère comme jugement?
Oui. On va dire que la phase aller a peut-être été un peu trop belle, que la phase retour est un peu trop moche. Voilà, c'est le Havre est 8e. Voilà, je pense que son classement correspond bien à l'image de la saison, quoi.
Paul Le Guen, il fait souvent référence pour expliquer un petit peu cette phase retour de médiocre qualité. Il parle un peu d'un changement d'état d'esprit, que les joueurs n'avaient plus les mêmes attitudes défensives. On a aussi un peu l'impression qu'il laisse penser que le mercato et que l'avenir de certains joueurs étaient déjà dans les têtes dès janvier. Est-ce que tu partages ce point de vue?
Oui, c'est possible, mais je suppose que dans tous les clubs c'est pareil, c'est-à-dire que le mois de janvier, les jeunes, les révélations, commencent à être un peu sollicitées. Les joueurs en fin de contrat se demandent, quel sera leur avenir. Ils commencent eux aussi à être un petit peu contactés à droite à gauche. C'est dans tous les clubs pareil. Alors peut-être que cette saison Havre, il y avait beaucoup de joueurs effectivement en fin de contrat, beaucoup de jeunes, qui ont été approchés par quelques chasseurs de tête. Oui, ça c'est clair. mais c'est aussi, il en va aussi du rôle du staff de maintenir un petit peu tout le monde sous pression. À l'arrivée cet hiver, un seul joueur est parti, c'est Boutaïb. Voilà, il n'y a pas non plus de bouleversement au sein de l'effectif. Après, si on reste sur les jeunes, c'est vrai qu'un Amir Richardson qui a été brillant tout au long de la phase aller, s'est réellement essoufflé. Maintenant, c'était sa première saison en Ligue 2. Il faut se rappeler que la saison passée, il était avec la réserve et la réserve n'a quasiment pas joué. Donc à un moment donné, peut-être qu'il a payé un petit peu tout ça et puis une réputation qui commençait à prendre un petit peu d'épaisseur. Il y a eu pas mal de paramètres. Maintenant, quand on est à la trêve hivernale, à un seul point du top 5 et qu'on a un petit peu d'ambition, d'une, on ne laisse pas partir l'un de ses attaquants, on en recrute un et peut-être aurait-il fallu recruter un ou deux autres joueurs pour espérer quelque chose.
On parle du départ là, de Ralid Boutaïb au Paris FC. On a une pensée pour lui, hein, parce qu'on a appris aujourd'hui que malheureusement, il s'était fait une rupture des ligaments croisés. T'as beaucoup parlé, effectivement, dans tes différents articles. Ça a vraiment marqué quelque chose, le départ de Ralid Boutaïb, avec tout le respect que je lui dois. Moi, sur les matchs que j'ai vus, je ne le trouvais pas extraordinaire, sportivement parlant. Mais on a quand même l'impression que ça a fait comme une sorte de petite cassure, le départ de ce joueur-là. Il avait peut-être une importance aussi dans le vestiaire.
Oui, il était très, très apprécié. C'est le joueur qui faisait le lien un peu entre les jeunes et les anciens. C'est un leader, hein, Ralid. Hein. Voilà. Alors effectivement, sur le terrain, il n'a pas toujours fait de très gros matchs. Maintenant, c'est quelqu'un qui se bat et qui allait au charbon. Voilà. On lui demandait aussi de marquer de temps en temps. Il ne l'a pas fait beaucoup avec Le Havre. Mais dans l'état d'esprit, c'est quelqu'un qui répondait toujours présent. Le message envoyé au vestiaire à ce moment-là, au moment de son départ, a été catastrophique. Certains joueurs auxquels on avait vendu une ambition l'été dernier, se sont dit mais on nous a vendu du vent finalement, et qui plus est le vendre à un concurrent qui était à l'époque direct. Là j'avoue qu'on n'a pas bien tout compris pour la maudite somme de 250 000 euros. Alors il y avait 200 000 en suspens, il y a toujours 200 000 en suspens en cas d'accession du Paris FC en Ligue 1. Mais bon, financièrement c'est pas une grosse affaire. Maintenant c'était un gros salaire aussi, donc la masse salariale a respiré un petit peu. Mais sportivement, le message envoyé au vestiaire a été dramatique.
Benoît Donquel, journaliste à Paris Normandie, spécialiste de l'actualité des ciels et marines, est l'invité du 26e épisode du débrief de Radio VFM et Foot Normand numéro consacré au bilan de la saison du Havre Athletic Club. Benoît, on va aussi parler des points positifs, parce qu'il y en a quand même, hein, on va pas noircir le tableau. L'utilisation massive des jeunes par Paul Le Guen. Alors des jeunes issus de la cave verte, Yaya Fofana, Isaac Touré, Amir Richardson, ou des jeunes qui viennent de l'extérieur. On parlera de Baldé ou de Mathis Sablin notamment, qui a été prêté par le Stade Rennais. Maintenant Benoît, est-ce que lancer autant de jeunes, c'est compatible avec de grandes ambitions?
Ben non, on l'a vu. Non. Si talentueux sont les jeunes, on a vu qu'on pouvait pas espérer grand chose. En tout cas, regarder dans les yeux les grosses écuries. Voilà, il y a eu des révélations. Hein. On peut parler de Daruna Sanganté qui au départ n'est pas le jeune le plus talentueux qu'on nous a vendu. Il n'empêche que lui, a fait preuve vraiment de sérieux. Il a un fort caractère. Richardson, ça a été très bien en première partie de saison, un peu moins bien après. On a vu de temps en temps Isaac Touré, mais on sait qu'Isaac Touré, il a un talent hors norme. Et puis effectivement, il y a eu les joueurs prêtés. Alors après, moi, les joueurs prêtés, je les mets un petit peu de côté parce que voilà, ils sont juste de passage. Ils ont fait le job. Hein. Ils ont fait le job. Baldé a fait une très très belle saison. Ablin, en une demi-saison, a prouvé que il était sur la trace des très grands, parce que c'est vraiment très très fort. Il impressionne tout le monde. Il y a eu Boura aussi, alors Boura qui arrivait de Lens, ça a été correct en première partie de saison et puis il a disparu des radars par la suite. Voilà, on peut pas avec autant de jeunes espérer monter en Ligue 1. Je me souviens de certains matchs où en défense, Gibault avait à sa droite un gamin, à sa gauche un néophyte, à côté de lui un débutant. Bref, si on peut expliquer aussi les problèmes défensifs de la deuxième partie de saison, alors que sur les 19 premiers matchs, Le Havre devait être deuxième ou troisième de chance du championnat, on peut l'expliquer comme ça aussi, parce qu'à force d'aligner que des jeunes, on a même vu NCK deux, trois fois, NCK, sa première apparition, de mémoire, il n'a pas encore 17 ans. Donc c'est compliqué.
Donc il y a eu cette utilisation des jeunes. Il y a quand même un point négatif dans cette saison, c'est on va dire, le désintérêt grandissant, on a l'impression, de l'extérieur, des supporters Ciel et Marine pour leur club, ou en tout cas de certains supporters, hein, parce qu'il y a toujours un noyau de fidèles, je pense qu'il sera là, quoi qu'il se passe. Mais on a l'impression quand même, depuis ce derby perdu contre Caen, donc c'était le début des festivités pour le 150e anniversaire au Stade Océane, il y a une cassure qui s'est un petit peu opérée, on l'a souvent dit dans cette émission. Les derniers matchs à domicile se sont déroulés devant des affluences très faibles, hein, souvent moins de 5000 spectateurs au Stade Océane, qui peut en contenir 5 fois plus. Benoît, toi qui es vraiment le spécialiste du club, comment on peut raviver la flamme autour de ce club-là? Parce que là, on a l'impression qu'elle est en train de s'éteindre petit à petit, et qu'à un moment, on a peur du point de rupture et qu'on ne pourra plus revenir, quoi.
Bah, là aussi, hein, y a un grand défi qui se présente au club. Vous parliez du noyau dur. Ce noyau dur, il ne cesse de se rétrécir quand même. Hein. À une époque, c'était 6-7 000, voilà. Et aujourd'hui, on est sur un noyau dur de 4 000 environ. Hein. Donc, quand je vois la dernière de Malherbe à domicile cette saison dans un stade plein, ça se finit sur une ambiance de fête, alors que Caen fait à peu près la même saison que Le Havre. Alors bon, la dynamique n'est pas la même, mais à l'arrivée, ils finissent avec le même nombre de points. Quand je vois à Guingamp, il y a une fête pas exceptionnelle, mais quelque chose de fort à la fin du match. Guingamp finit sixième, donc on peut pas dire non plus que les supporters en vibraient tout au long de la saison. Chez nous, ça s'est terminé dans l'indifférence, et heureusement qu'il y avait à peu près 1000 Auxerrois pour le dernier match. Ça a sauvé un petit peu, l'atmosphère. Mais quand on discute avec les gens en ville, hein, que ce soit de vrais fans ou des gens qui font partie de ce qu'on appelle le grand public, oui, les gens s'en désintéressent de plus en plus parce que ça fait 13 ans que Hack végète en Ligue 2. Alors il y a eu deux petits pics, hein, il y a eu ce match, je me souviens, le match de Bourg-en-Bresse en 2016 où le club double accession pour un but, il y a eu le play-off à Ajaccio, mais sinon il ne se passe strictement rien. Rien. Et ça manque effectivement de vie, de spectacle au Stade Océane. Et ça dure depuis des années. Donc effectivement, les gens ne viennent plus. Les gens regardent de temps en temps un multiplex par-ci, par-là. Mais les gens ne viennent plus au stade. Et il y a une vraie cassure également, je pense, entre le club et les vrais fans.
Et alors, c'est forcément un constat. Est-ce qu'il y a des solutions? Parce que c'est pas évident quand même de réenclencher une dynamique positive, sachant que, alors sans leur jeter la pierre, mais on repartira avec les mêmes hommes, en tout cas les mêmes dirigeants, enfin sauf grand changement durant l'été, mais visiblement pour le moment, le président Volpe sera toujours propriétaire du club, Pierre Ventis sera toujours là aussi, même si les supporters ne le portent guère dans leur cœur, et Paul Le Guen, comme on l'a lu dans les colonnes de Paris-Normandie, a été confirmé pour la saison prochaine, donc c'est pas là-dessus qu'en tout cas il y aura un levier pour raviver la flamme, donc comment faire?
Déjà dans le discours de la direction, il va falloir quand même être un petit peu plus réaliste, parce que tous les ans, le président Volpe annonce au mois de juillet que l'objectif, c'est de retrouver la Ligue 1. Donc, à partir de là, les supporters attendent que le club construise une équipe apte à retrouver la Ligue 1, ce qui n'arrive jamais. Donc voilà, les gens ne demandent pas forcément, tout le monde aimerait effectivement retrouver la Ligue 1, mais au moins que Le Havre joue quelque chose, soit dans la course. Donc là, ça va passer par un recrutement que j'espère réussi, mais que, voilà, il va falloir quand même pas loin de 8 joueurs. On sait que sur le marché des transferts, Le Havre n'a pas toujours été très inspiré ces dernières années. Donc ça va passer par un recrutement, ça va passer par peut-être un système de jeu qui va procurer un petit peu plus de plaisir aux gens, et puis peut-être que ça reviendra petit à petit au stade. Mais ça va être long, ça va être très très long.
Benoît, tu faisais tout à l'heure le parallèle avec le Stade Malherbe, évoquant plutôt une opposition en termes d'effervescence. Je sais que c'est difficile de faire le parallèle avec le Stade Malherbe quand on est du Havre, mais néanmoins, on constate que le Stade Malherbe n'a pas fait une saison foncièrement meilleure que le Havre. Le Stade Malherbe a connu aussi de grandes périodes de trous cette saison, et pourtant, effectivement, le public a toujours été présent au stade. Le club a renoué des liens très forts avec ses supporters. Est-ce que c'est pas un exemple à suivre quelque part ? Est-ce que dans le dialogue, dans la communication, dans l'échange, dans la manière d'associer aussi les supporters, il n'y a pas quand même un exemple à suivre là-dessus, au-delà même des résultats ? Parce qu'encore une fois, oui, on le sait, les résultats, c'est ce qui va guider quand même une grande partie de l'effervescence, qui va favoriser le retour du public au stade. Mais au-delà de ça, l'exemple de Caen prouve cette année que même sur une saison moyenne, à aucun moment Caen n'a été en capacité de disputer véritablement la montée. Et bien malgré tout ça, Caen a su renouer les liens très forts avec ses supporters.
Ouais, alors je sais pas comment ça s'est passé en termes de relations entre les supporters et les dirigeants canadiens. Ce que je sais, c'est que c'est qu'au Havre, les relations sont au mieux très fraîches. Voilà, au mieux très fraîches. Je prends un exemple tout bête. Hein. Le jour du match du derby et des 150 ans, les supporters, voilà, se sont d'eux-mêmes associés à la fête. Bon, il y a eu ce fameux tifo géant qui s'est déchiré rapidement, mais bon, voilà, ça a bossé dur, ça a bossé durant de longues semaines. Il voulait vraiment marquer le coup. Ce jour-là, aucun dirigeant n'est venu les voir. Ne serait-ce que 30 secondes, 2 minutes, pour les remercier, pour leur souhaiter bon match, etc. Aucun dirigeant n'est venu les voir.
Oui.
Et ça, je pense que ça symbolise. Les relations entre les fidèles du COP et la direction.
Oui, le public a aussi besoin de retrouver ces échanges-là. On évoquait encore une fois, on ne va pas faire le parallèle uniquement avec le Stade Malherbe, mais des relations de confiance, d'échange qu'Olivier Piqueux a su renouer avec les supporters, parce qu'on sait qu'il y a aussi eu des périodes très tendues dans un passé pas si lointain du côté du Stade Malherbe. C'est fondamental d'avoir ces relations-là. On évoquait effectivement cette reconnaissance, ce dialogue, la reconnaissance envers les supporters, mais la reconnaissance aussi envers les joueurs dont les supporters ont besoin. On a parfois parlé de la situation d'Alexandre Bonnet, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Le public aurait aimé peut-être une meilleure considération. Bon, Jean-Pascal Fontaine a certes été honoré lors de la dernière à Océane, mais peut-être que le public aurait attendu autre chose. La direction a été décriée aussi sur ce que certains ont évoqué comme un manque de reconnaissance envers Christophe Revault, qui a été extrêmement honoré du côté de Toulouse, moins du côté du Havre. Est-ce que ça, au-delà même de ce qui se passe sur le terrain, dans les prestations, est-ce que ça renforce pas aussi justement les relations de froid dont on parlait tout à l'heure entre la direction d'un côté, le club, clairement, et les supporters ?
Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors on parlait de Christophe Revault. Bon, je sais que le club n'est pas, je dirais, le seul responsable sur le fait que ça traîne. Voilà, la municipalité a elle aussi le dossier en main et n'est pas très réactive non plus par rapport à ça. Le Havre sait, hein, les dirigeants havrais savent que voilà, ça prend beaucoup de temps, que les supporters l'ont un petit peu en travers de la gorge, et comme vous le disiez, ce qui s'est passé à Toulouse, voilà, ça a circulé sur tous les réseaux, il y a eu quelque chose de festif, de fort, ce qu'on n'a pas encore su faire au Havre. Après, oui, il y a aussi vis-à-vis d'un Alexandre Bonnet. Alors voilà, le garçon est quand même là depuis 2009. Il a toujours fait le job, c'est quelqu'un de... Dans le comportement, c'est quelqu'un d'exemplaire. Eh bien, il n'y aura peut-être même pas de revoir Alexandre Bonnet au stade Auxerre. Enfin, c'est quelque chose d'hallucinant. Quant à Jean-Pascal Fontaine, bon, je pense que... Bon, ça n'a pas été grandiose, mais je pense que ça allait très très bien au personnage qui, de toute façon, ne voulait pas parler. Je ne le voyais pas prendre le micro au milieu du stade Auxerre pour remercier les supporters. C'est quelqu'un de trop introverti pour ça. Je pense que voilà, aller serrer quelques louches et faire quelques selfies au pied du COP, ça lui suffisait amplement.
On parle de ces deux joueurs, hein, ces deux joueurs qui sont en fin de contrat. Donc Jean-Pascal Fontaine, c'est sûr qu'il ne sera plus à vrai la saison prochaine. Hein. Benoît, tu avais annoncé qu'il retourne sur son île natale de La Réunion.
Tout à fait.
Là, si on a compris. Donc Alexandre Bonnet, le cas est un peu plus complexe. Il est en fin de contrat pour le moment. Il n'a pas de proposition de prolongation. Paul Le Guen nous a fait comprendre avant le dernier match, la vendredi, que grosso modo, il prenait le temps de réfléchir encore. Donc voilà. Donc ces deux joueurs qui peut-être ne sont... Donc, au moins un et le deuxième peut-être plus là la saison prochaine, et c'est pas les seuls, car on a Yaya Fofana et Imad Abdelli aussi en fin de contrat qui se sont engagés pour Angers. On a Emen Ben Mohamed, alors même si on l'a pas trop vu parce que aussi il est revenu aussi d'une blessure des croisés après son prêt, qui est en fin de contrat, qui ne sera plus là. Paul Le Guen nous a fait aussi comprendre que les garçons prêtés, donc Tierno Balde, Ismaël Boura et Mathis Abline, il y avait très peu de chances de les revoir la saison prochaine, qu'ils auraient certainement d'autres propositions. Bon, il y a des cas aussi aussi un petit peu complexe. Le troisième, alors aujourd'hui qui est troisième gardien, mais peut-être appelé la saison prochaine à être deuxième. Le susnommé Mohamed Koné, mais qui visiblement n'est pas très enclin à signer son premier contrat professionnel avec le club. Ça, c'est encore d'autres problèmes de la gestion des jeunes et des entourages qui sont pas toujours très reconnaissants vis-à-vis des clubs formateurs. Un garçon comme Pierre Gibault aussi, hein, qui visiblement sera plus là la saison prochaine. Pareil, tu l'avais expliqué dans les colonnes, hein, lui souhaitait un engagement un peu plus long de 2 ans.
Ouais.
Paul Le Guen nous a fait comprendre que grosso modo il avait une règle, qu'à partir d'un certain âge c'était 1 an et pas plus, et qu'il ne l'en dérogerait pas quel que soit le joueur, grosso modo. Ça fait quand même un paquet de départ.
On peut ajouter Cornette.
Exactement, contre Cornette, c'est vrai, tout à fait. Qui est le joueur le plus décisif cette saison, si je me trompe pas.
Ouais.
Notamment sur les coups de pied arrêtés. On va avoir, dans tous les cas, on va avoir un nouveau hack la saison prochaine, en fait.
Oui, alors, ça peut être une bonne nouvelle si le club est inspiré dans son recrutement. Voilà, c'était peut-être la fin d'un cycle, ou le moment peut-être, on va pas parler de cycle, mais le moment de renouveler et de redonner un peu d'air à l'effectif. Voilà, ça peut être une belle occasion de repartir sur des bases nouvelles, hein, sachant qu'il y aura 7, 8, peut-être 9 nouveaux joueurs, on ne sait pas encore. Voilà, ça peut permettre de repartir sur quelque chose de neuf sportivement, sur quelque chose de peut-être un peu plus frais humainement, même si, voilà, comme on dit, le groupe vivait plutôt bien, hein, on n'a jamais eu écho de grosses tensions. Voilà, moi je trouve même que le groupe vivait peut-être un peu trop tranquillement. Ça manque un peu de pression à tous les étages.
Ouais, c'est un peu le danger qui guette l'œuvre, en fait, quoi. C'est que c'est un peu une belle endormie aussi, quoi. Beau stade,
eh oui,
beau centre d'entraînement maintenant, un coach de renom et qui s'exprime aussi très très bien, des joueurs au demeurant sympathiques, mais ça manque un peu de...
Ça manque de vie, ça manque de passion, ça manque de pression. À Sequence, les joueurs sont entre eux avec les entraîneurs. Rares sont les fois où un dirigeant franchit la porte du centre d'entraînement. On n'a jamais un dirigeant qui vient s'exprimer après une lourde défaite, hein, comme il y a pu y avoir cette année. Je mets à part le revers contre Caen, mais le 4-2 concédé à Ajaccio, qui pour moi, voilà, ça a marqué la fin de tous les espoirs. Pas Ajaccio, Bastia, autant pour moi. Bastia, le 4-2 au Stade Océane, dans la foulée de cette terrible défaite, il n'y a pas un dirigeant qui vient s'exprimer. Voilà, moi je veux pas revenir en arrière sans cesse, mais à une époque, le président n'aurait même pas eu à être invité pour se présenter devant la presse. Voilà. Là, on a le sentiment, ça gagne, ça perd, ça fait match nul, il se passe rien. C'est plat. Donc il va là aussi, mais si les mêmes hommes restent, s'il n'y a pas une nouvelle tête, on parle d'un directeur sportif, mais Le Guen n'en veut pas. Donc le débat est clos. On va repartir, je pense, sur des mêmes bases. Comme vous le disiez, il y a un joli centre d'entraînement, il y a un joli stade. On est tranquille au Havre. Hein. On est tranquille. Alors après, Pierre Ventier, il y a 3 ans, avait fait le constat que le Havre était une belle endormie, qu'a-t-il fait pour que ça change. Voilà.
Donc ça passera, pour que ça change, ça passera par des nouveaux joueurs, du coup, si on comprend bien. C'est le seul levier, à disposition, quoi.
Ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait.
On termine un petit mot mercato en disant justement cette info que tu as révélée en fin de semaine dernière. Peut-être le nom d'une première arrivée, hein, qui est l'attaquant de Concarneau. Fahed El Koumisti, qui a fini deuxième meilleur buteur de National, avec Concarneau, qui a été longtemps à la lutte pour la montée en Ligue 2, d'ailleurs. Bon, on va pas se mentir, moi personnellement je le connais pas trop, joueur, mais on a envie de dire que c'est peut-être aussi les joueurs sur lesquels le profil de joueur dont faut s'intéresser quand on est le A, quand on est en Ligue 2, quand on a visiblement plus beaucoup de moyens financiers. C'est sur ces garçons-là qu'il faut aussi se pencher.
Sachant qu'il va falloir quand même pas mal de nouveaux joueurs, alors peut-être qu'il va falloir aller sur des joueurs qui sont réellement aguerris à la Ligue 2. Et puis parallèlement aller peut-être chercher des bons coups en National. Le HAC ne pourra pas prendre 8 joueurs avec une forte expérience de la Ligue 2. C'est pas possible, financièrement ce sera pas jouable. Donc il va falloir aller chercher quelques bons coups. Là aussi des bons coups, mais des joueurs avec un peu d'expérience aussi, pas des révélations du National. El Koumisti, il est donc deuxième buteur de National, il a été élu meilleur joueur de National, mais il a déjà 28 ans, donc il dispose d'une petite expérience. Parce que la saison prochaine, il n'y a qu'à descendre direct. Et là, pour le coup, je pense qu'il va être difficile de partir à la guerre pour, avec une équipe très très jeune.
On verra ça à partir, la reprise est le 24 juin je crois du côté de
l'entraînement,
de Sequence, donc à partir du 24 juin, le mercato dure, lui s'étire jusqu'au 1er septembre, donc d'ici là il peut s'en passer pas mal des choses, on va suivre ça avec attention et notamment à travers ta plume et dans les colonnes de Paris Normandie, Benoît.
Ok, il n'y a pas de souci.
Eh ben merci infiniment, Benoît. Tu auras été l'un des fidèles intervenants sur le débrief de Radio VFM et Foot Normand cette saison. Le Havre qui termine donc 8e avec 50 points, comme un clin d'œil à égalité de points avec le Stade Malherbe. Mais
des dynamiques inverses, en fait.
Exactement.
Voilà.
Et ça change la perception des gens parce qu'encore une fois, c'est cette première partie de saison du HAC, même si c'était pas flamboyant dans le jeu, y avait des garçons, on sentait quelque chose qui se dégageait un petit peu de l'équipe. Et d'ailleurs, les supporters ne s'y sont pas trompés parce qu'ils soutenaient bien leur club. Et ça s'est cassé. Et ça s'est cassé dans la deuxième partie de saison. Alors, comme on l'expliquait, sur régime, sollicitation extérieure ou peut-être tout simplement plafond de verre. Mais en tout cas, et donc ça laisse une impression forcément un peu fade à l'heure où on se parle.
Tout à fait.
Merci encore infiniment, Benoît. Toute l'actualité des Ciels et Marines à suivre dans les prochains jours et semaines, évidemment, parce qu'il y a un mercato qui arrive sur les réseaux sociaux via Paris Normandie et via le journal Paris Normandie, évidemment. Merci encore une fois infiniment, Benoît, et à la saison prochaine.
Merci à vous.
À très bientôt, Benoît, d'avoir été avec nous aujourd'hui et régulièrement tout au long de la saison. Merci également à Quentin Radic qui a assuré parfaitement, comme d'habitude, la réalisation technique de ce 26e épisode du débrief. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Mathieu, effectivement, pour parler de foot. Encore une fois, avec Radio VFM et Foot Normand, on vous souhaite une belle semaine, Mathieu.
Tout à fait, idem.
Merci à toutes et à tous de nous avoir été fidèles. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et à très vite pour parler de foot avec Radio VFM et Foot Normand. Salut.
Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.